Bienvenue dans ce 8e épisode du podcast de voixpoétique.com. Je suis David, poète et voix de ce podcast. Ces capsules audio, je les diffuse sur le web afin de vous faire rentrer dans l'univers de mes poèmes, en lecture libre sur le site voixpoétique.com. Partage, échange et ouverture sont les espaces que je garde pour vous dans chacune de mes poésies, et je vous propose donc de rentrer aujourd'hui ensemble dans le poème « Bulle ». Ce texte est né d'un moment de félicité et de profonde présence que j'ai vécu dans un temple bouddhiste à Karmaling, qui est situé à Arvillard, en Savoie. C'est dans ce lieu, qui est empreint de spiritualité, de silence et de connexion au vivant, un endroit magnifique, que ce poème a pris forme. L'idée, en vous lisant ce texte, est d'explorer la dimension poétique, mais aussi de tisser des liens avec la philosophie bouddhiste, puisque l'endroit a inspiré ce poème, et d'en faire le lien avec également la philosophie antique grecque, qui m'est très chère au quotidien. Ainsi, nous allons tenter de dégager une profondeur universelle en mêlant l'esprit de la méditation bouddhique à la sagesse antique et la sensibilité poétique, bien sûr, puisque c'est un podcast de poésie avant tout. Alors pour tout cela, on va bien sûr garder cet angle poétique, c'est-à-dire en laissant une place importante aux images, aux sensations, aux symboles. Je vous propose d'abord de vous lire ce poème dans son intégralité, puis je vais prendre ensuite le temps de le commenter, d'en commenter chaque aspect, et d'en extraire l'essence spirituelle et philosophique. Alors voici Bulle. Assis sur ce rocher millénaire, les pieds dans l'eau, portant toute attention à cette cascade qui, à chaque seconde, épouse la roche. Étreinte sans âge, lui faisant porter ses marques profondes, des milliers de bulles de leur union prennent naissance sous mon regard empli de compassion. En un instant, elles disparaissent, redeviennent eau. La création se manifeste. Alors, joignant mes mains, je remercie d'être conscience. Le flot de la vie se déverse, me laissant ainsi ses marques, à la différence que mon pas de côté me fera goûter à la chaleur d'un soleil brûlant. Ma vie, aussi éphémère que cette bulle. Je souris à cette pensée que je rejoindrai bientôt l'océan infini. Le poème nous place dans une scène très concrète et sensorielle. Assis sur un rocher millénaire, les pieds dans l'eau, contemplant une cascade qui épouse la roche à chaque instant. Cette entrée en matière nous ancre immédiatement dans le réel. Mais c'est un réel qui invite déjà à la méditation. Le rocher millénaire, symbole de permanence, de durée, contraste avec le flux de la cascade, qui lui est un symbole de changement perpétuel. Dans la philosophie bouddhiste, c'est précisément cette tension entre la permanence et l'impermanence qui va être essentielle. Le rocher peut sembler stable, immuable, tandis que l'eau qu'il caresse illustre le flux permanent, l'impermanence des phénomènes. Les pieds dans l'eau, je suis en contact direct avec l'élément liquide, ressentant physiquement la fraîcheur, la fluidité. C'est pas une observation purement intellectuelle, mais c'est une immersion sensorielle. La cascade qui épouse la roche, à chaque seconde, évoque le renouvellement incessant de la réalité. Rien ne reste figé. Tout est recomposé continuellement. Vient alors la notion d'étreinte sans âge. C'est un geste poétique pour dire que ce phénomène naturel, l'eau et la roche qui s'entrelacent, est totalement hors du temps. L'eau sculpte la roche. Elle lui imprime des marques profondes. Ainsi, la réalité matérielle porte en elle l'histoire de ces interactions. Les bulles naissent de cette union. C'est un instant éphémère, une petite formation transitoire. Elles apparaissent, brillent un court instant, puis disparaissent. Dans le bouddhisme, la conscience de l'impermanence est totalement centrale. Les bulles deviennent ici un symbole de cette impermanence. Ce sont des formes éphémères de l'eau. Elles n'ont pas d'existence propre permanente. Elles émergent, puis se dissolvent à nouveau dans l'élément originel. À ce moment, je contemple ce phénomène avec une grande compassion. La compassion bouddhiste n'est pas seulement un sentiment envers les êtres vivants, c'est aussi une attitude d'ouverture, de compréhension profonde de la nature des choses. En constatant l'émergence et la dissolution, je développe un regard lucide, serein, empreint de bienveillance envers ce cycle naturel. Ce cycle de création et de dissolution, c'est un écho direct à la notion bouddhiste, très souvent mal comprise, de la vacuité. Rien n'existe en soi, de manière indépendante et permanente. Les bulles sont vides d'essence propre. Elles dépendent de l'eau, de la cascade, de la roche et des conditions du moment. Cette observation me renvoie immédiatement au concept de non-soi. Comme la bulle, aucun phénomène, y compris nous-mêmes, n'a d'existence indépendante et éternelle. C'est un enchevêtrement de causes et de conditions. En un instant, elles disparaissent, redeviennent eau. Et petite subtilité pour ceux qui écoutent seulement mais ne lisent pas, eau, E-A-U, dans le texte, entre parenthèses, H-A-U-T. L'insistance sur ce retour à l'eau, à la source, va suggérer une réintégration dans un tout qui est bien plus vaste. Dans le bouddhisme, comprendre cela mène directement à la sérénité. Il n'y a pas de tragédie dans la disparition des bulles, car elles retournent à ce qu'elles ont toujours été, un flux. De la même manière, nos vies, nos formes individuelles ne sont que des expressions momentanées de d'une réalité qui est finalement bien plus large. Et du coup, tellement large qu'on a énormément de mal à la saisir et à la comprendre. La phrase « la création se manifeste » est vraiment, à mon sens, très intéressante parce qu'elle suggère que la formation des bulles, leur bref éclat, est une expression de la créativité de la nature. Et dans la philosophie grecque antique, surtout chez les présocratiques, on trouve aussi une sorte de fascination pour le flux, le devenir, l'émergence des formes à partir du chaos et de l'unité primordiale. Héraclite, par exemple, considérait que tout coulait, pantarei, que la réalité était un fleuve en perpétuelle mutation. Les bulles sont un micro-événement dans un grand flux universel. Le poème dit ensuite « Alors, joignant mes mains, je remercie d'être conscience. » C'est un geste de gratitude et d'humilité. Je prends conscience de ma propre capacité à observer, à comprendre, à ressentir. Dans le bouddhisme, la conscience est ce qui permet de voir la nature des choses. C'est aussi un motif de gratitude. Être conscient, c'est avoir la possibilité de s'éveiller et de comprendre l'impermanence et la vacuité. et ainsi de se libérer finalement de l'ignorance. Dans la philosophie grecque toujours, la conscience, la raison, logos, est ce qui différencie l'homme et lui permet de contempler l'ordre du monde, le cosmos. Les stoïciens, par exemple, invitaient à la gratitude envers la nature, envers le cosmos, pour le simple fait d'exister et de pouvoir comprendre. C'est déjà énorme. Le flot de la vie se déverse, me laissant aussi ses marques. Ici, je reconnais que je ne suis pas séparé du monde. Comme la roche porte les traces de l'eau, l'être humain porte en lui les traces de la vie, des événements, des expériences. On est sans arrêt modelé, façonné par les épreuves et les expériences que nous traversons. Dans la pensée grecque antique, on retrouve souvent l'idée que les péripéties de la vie, les épreuves et les joies sculptent notre caractère. Par exemple, toujours pour les mêmes stoïciens, la vie est une sorte de matériau sur lequel nous pouvons exercer notre vertu, notre sagesse, et ainsi laisser une empreinte dans notre propre âme. À la différence que mon pas de côté me fera goûter à la chaleur d'un soleil brûlant. Alors ici, je perçois une conscience du libre arbitre, de la possibilité de me mouvoir, de changer de perspective. Contrairement à la roche qui subit l'eau, l'humain, lui, peut faire un pas de côté, se déplacer, chercher le soleil, changer d'état. Cette liberté, cette capacité d'agir, nous sépare clairement des éléments inertes. Dans le bouddhisme, si on reste attaché à ce qui est éphémère, eh bien tout simplement, on souffre. Et chacun en fait l'expérience. Mais on a la possibilité de développer la sagesse et de nous tourner vers la lumière, vers la clarté. Chez les Grecs, cette métaphore du pas de côté pourrait évoquer directement la philosophia, l'amour de la sagesse, qui nous pousse à nous écarter de l'opinion commune, à se mettre en danger et à chercher le bien, la beauté, le vrai. À la manière de Socrate, faire un pas de côté par rapport à l'agitation du monde permet de contempler plus profondément la réalité. Ça demande beaucoup de courage. Ma vie, aussi éphémère que cette bulle, cette reconnaissance de la brièveté de la vie, c'est un thème commun au bouddhisme et à la philosophie grecque. Le bouddhisme nous rappelle que tout est impermanent, y compris notre propre existence. Les stoïciens, eux, conseillent de vivre en sachant que la vie est courte, de cultiver la vertu sans plus attendre. Épicure, de son côté, lui invitait à savourer chaque instant en gardant à l'esprit la finitude. La comparaison de la vie à une bulle, brillante mais de courte durée, renvoie à cette humilité face au temps. Je souris à cette pensée que je rejoindrai bientôt l'océan infini. Mon sourire face à cette perspective est, à mon sens, essentiel. Il s'agit d'accepter son impermanence, sa dissolution finale, dans un tout bien plus vaste, comme on le disait tout à l'heure. Le bouddhisme enseigne que la souffrance naît de l'attachement, de l'illusion d'un moi permanent. Comprendre que nous rejoindrons le grand océan, c'est admettre que notre individualité n'est qu'une phase, qu'au fond, nous faisons partie d'un grand tout. Dans la philosophie grecque, le retour à l'unité, à l'harmonie cosmique, peut aussi être vu comme une forme de paix ultime. Et les pythagoriciens, les platoniciens, considéraient le cosmos comme un ordre harmonieux. Et l'âme, après la mort, pourrait retrouver sa source. Même si les conceptions diffèrent, il y a toujours cette notion d'un océan infini, une métaphore pour l'unité fondamentale, la réalité ultime qui englobe toutes les formes éphémères. D'un point de vue poétique, Le poème articule l'expérience sensible, l'eau, la cascade, les bulles, à une réflexion métaphysique et philosophique. On pense sans cesse du particulier à l'universel, de l'observation concrète à la symbolique profonde. Et cette démarche rappelle la démarche contemplative encouragée dans le bouddhisme. Observer la nature telle qu'elle est, sans jugement, et y voir l'enseignement de l'impermanence, de la vacuité et de la compassion. On retrouve aussi l'esprit de la méditation grecque où le philosophe contemple le monde, s'inspire de la nature pour élaborer sa compréhension du cosmos, de la vertu et de la sagesse. On peut dire que le poème nous invite tous à un double mouvement, s'ancrer dans l'instant présent, ressentir la fraîcheur de l'eau, la solidité du rocher, et en même temps percevoir la trame plus large de la réalité dans laquelle chaque phénomène naît, vit, meurt, et se fond dans l'ensemble. C'est une vision unifiée qui me tient particulièrement à cœur et où l'expérience sensorielle et la spéculation philosophique se rejoignent pour offrir un apaisement, une sorte de lucidité. La mention de la compassion est aussi très importante. Dans le bouddhisme, la compréhension de l'impermanence s'accompagne d'une ouverture du cœur, d'une empathie envers tous les êtres, puisque tous sont soumis aux mêmes lois, aux mêmes souffrances, aux mêmes cycles. Dans la pensée grecque, la compassion n'est pas au même rang que dans le bouddhisme, mais on retrouve l'idée que la conscience de notre vulnérabilité commune peut conduire à la philanthropia, l'amour de l'humanité. Philanthropie. La bienveillance réciproque. Le stoïcien considère que tous les hommes sont frères, partagent la même nature rationnelle. Et cet angle rejoint le regard empreint de compassion que j'ai voulu impulser dans ce poème. En somme, ce poème est un pont entre l'expérience concrète d'un moment de félicité au bord d'une cascade dans un temple bouddhiste et des réflexions philosophiques qui sont bien plus anciennes. Il nous montre qu'on peut, à partir d'une simple bulle d'eau, accéder à une compréhension profonde de la condition humaine. Notre éphémère passage, notre insertion dans un tout plus vaste, notre capacité à contempler, remercier, sourire devant notre destin. L'harmonie entre l'enseignement bouddhique et la sagesse grecque, pour moi, se fait naturellement. Parce que les deux traditions, malgré leurs différences, et les différences sont nombreuses, cherchent à répondre à une même question. Comment vivre en conscience, en paix, en accord avec la nature des choses? Et donc ce texte est une invitation à nous réjouir d'être conscience, c'est-à-dire d'avoir cette faculté rare, peut-être unique même, de nous comprendre nous-mêmes, de saisir l'impermanence au lieu de la subir. Et il nous propose de voir la vie comme un flux de bulles, sans désespérer, mais au contraire, en trouvant la liberté dans l'acceptation du changement. Donc face à ce constat, le sourire final, c'est un signe d'harmonie intérieure. Sourire devant l'idée de rejoindre l'océan infini, c'est accueillir la mort, la dissolution, non pas comme une catastrophe, mais comme un retour à la source, une réintégration dans l'unité. Ce sourire, c'est aussi un clin d'œil philosophique. Et d'ailleurs, l'épicurien aurait souri à la brièveté de la vie, en invitant à savourer chaque instant. Le stoïcien aurait considéré la fin comme dans l'ordre naturel des choses, à accepter avec sérénité, puisqu'il n'y a pas de choix. Et le bouddhiste sourit car il sait que s'attacher à la bulle comme une entité séparée est cause de souffrance, et que comprendre sa nature, eh bien tout simplement nous libère. J'espère que cette longue exploration du poème Bulle vous aura permis de découvrir comment à partir d'un instant vécu dans un temple bouddhiste en Savoie, on peut déployer un horizon de sens qui embrasse à la fois la philosophie de l'Asie et de l'antiquité grecque. Et c'est ça, le pouvoir de la poésie, de la contemplation, de la philosophie. Unifier l'expérience concrète et la réflexion la plus haute, nous permettant de marcher sur le chemin même de la sagesse avec gratitude et légèreté. Merci d'avoir partagé ce moment, d'avoir écouté, je l'espère, avec une très grande attention, puisque cet épisode, je pense, aura réclamé très clairement votre attention, sans quoi vous serez peut-être passé à côté de certaines choses. Puissiez-vous, à l'occasion, contempler, vous aussi, une simple bulle et y voir la leçon discrète que l'univers nous offre. Nous ne sommes que de passage. Mais ce passage est une invitation à la conscience, à la compassion et à la sérénité. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.